chez le roi. Marie-France Guimard-Roche est très heureuse de vous présenter son émission consacrée à Versailles. Louis II, le dandy tragique. C'est le titre du dossier du Figaro du jeudi 18 juillet 1996, écrit par Marcel Schneider. Son mythe, écrivait-il, réside dans le caractère étrange et déroutant de sa personne. Louis II avait déclaré vouloir demeurer une énigme pour lui-même et pour les autres. Reste effectivement une énigme, et cette énigme, elle continue à nous intriguer et à nous séduire. Il a eu pour le monde un mépris souverain, attitude qui fait toujours scandale. Énigme et scandale, telles sont les composantes majeures du mythe. Le roi Louis avait horreur de son époque, qui représentait pour lui l'antimonde démoniaque. Cet antimonde, c'était Bismarck et l'hégémonie de la Prusse. C'était l'essor du capitalisme et de l'industrialisation à outrance. L'alliance de ces deux courants prit pour lui les couleurs de l'abomination absolue. Animé d'un nihilisme transcendant, il devint dans les années 1870 le monarque du refus et de la contestation. Existe-t-il un moyen de vaincre l'antimonde démonisé? Aucun. En dehors de l'abdication du roi et sa retraite à Yoast, comme le fit Charles Quint. Au XIXe siècle, où les rois sont devenus des super-préfets, cet acte perdait toute signification. En 1866, après 2 ans de règne, Louis songea à se démettre du pouvoir. Il renonça à cette tentation. C'est de Dieu qu'il avait reçu sa puissance par l'onction du sacre. C'est à Dieu qu'il devait rendre des comptes, non à ses sujets. Il se réfère à son saint patron, Louis IX de France. Saint Louis, modèle idéal, puisqu'après avoir régné, il est mort à la croisade et qu'il a été canonisé. mesure que le souverain comprend que la monarchie de droit divin périclite, il se réfugie dans la solitude. Il sait ce qui se passe en Europe, la constitution à Versailles de l'Empire prussien, le triomphe du capitalisme, la naissance du parti socialiste bavarois. Il sait tout ça, mais il le nie. La solitude est pour lui plus qu'une nécessité qu'un choix. Puisque l'histoire le trahit, la seule réponse à cet affront est l'exil au-dedans de lui-même et l'accomplissement de son destin d'artiste. Ce destin d'artiste, il l'a réalisé grâce à la musique de Wagner et à ses châteaux. Il est le seul roi dans l'histoire de toutes les dynasties européennes dont le premier acte, dès sa montée sur le trône bavarois, ait été de faire venir Wagner à Munich, de lui permettre de faire jouer Tristan et de composer son œuvre sans souci financier. Il écrit à Wagner en 1865 « Lorsque nous aurons cessé d'exister, notre œuvre sera un exemple pour la postérité. » Les siècles resteront éblouis et les cœurs ardents d'enthousiasme pour l'art. L'art, né des dieux, éternellement vivant. Le jour viendra où le monde saura reconnaître enfin le vrai sens de notre indestructible alliance. Quand Wagner dut quitter Munich et s'installer à Lucerne, Louis continue son mécénat. « Achevez vos Nibelungen, qui seront l'œuvre la plus grande et la plus haute qui ait jailli d'un esprit humain. » Le théâtre de Bayreuth n'aurait pu être réalisé sans les largesses du roi Louis. Sa vocation d'artiste, il l'a accomplie à travers l'édification de ses châteaux. Il a écrit dans son journal intime « La vie n'est possible que grâce à des fantômes esthétiques. On ne saurait plus clairement définir sa nature d'artiste, toujours seul, face à lui-même, quand il crée. » Les châteaux de Louis II, nés du rêve et de l'angoisse, sont des idées de poètes devenus pierres. Ils prennent une signification initiatique. Pendant longtemps, on a vu dans Lindorov qu'un Trianon dans les montagnes, Erem Kimsey, Versailles dans une île, et Neuschwanstein, un pierrefonds amélioré. Et bien sûr, de rire, de tant d'extravagance et de mauvais goût. C'était ne rien comprendre à l'énigme de Louis II. Ces châteaux expriment son mythe, qui se résume en deux mots. Le rêve et le règne. Le rêve qu'il veut poursuivre à l'état de veille et le règne qu'il maintient, malgré l'hostilité de l'histoire contre la monarchie de droit divin. Erem Kimsey et Neuschwanstein ne sont pas des châteaux conçus pour qu'on y reçoive, encore moins pour qu'on y abrite des ministres et des administrateurs. Ce sont des temples élevés à la mémoire de la monarchie absolue, où seul doit pénétrer le grand prêtre, le roi en personne. Erem Kimsey incarne le règne, Neuschwanstein le rêve. Jamais il n'a reçu personne en ce lieu, même pas sa cousine chérie Élisabeth d'Autriche qui a dû rebrousser chemin. Ces châteaux conçus entre 1867 et 1870 réalisent des désirs de jeunesse. Rêvés par lui, ils sont achevés par des hommes de l'art. Mais notons que Louis II s'adresse pour Neuschwanstein à Janck, décorateur du théâtre de Munich, et non à un architecte. Janck sentait le désir d'imagination de son maître et savait le satisfaire. C'est dans les Alpes de Bavière que le lieu inaccessible et sacré, digne de servir de temple au divin aimé, qui seul apporte à l'univers le salut, sera choisi, écrit-il à Wagner, le 13 mai 1868. Mais Wagner n'en franchira jamais le seuil.
Thank you.
Cette musique, composée pour Peau d'âne par Michel Legrand, incarne à la perfection, pour moi, ces châteaux de rêve. Ces trois châteaux, du plus modeste au plus chimérique, proposent un chemin initiatique, un chemin de perfection, avant d'arriver au Saint des Saints. C'est la chambre du roi, Lindorhof. C'est la galerie des glaces, imitée de Versailles, plus grande même que l'original, à R.M. Kimsey. C'est la salle du trône, placée au niveau des 3e et 4e étages à Neuschwanstein. On ne peut y parvenir qu'à la suite d'un itinéraire unique et compliqué, un escalier fort étroit, qui prend naissance près de la chambre du roi. Ce qui signifie clairement que seul le roi Louis pouvait accéder à cette salle votive, ornée des effigies des rois et des empereurs canonisés, hymne à la monarchie défunte et aussi à la nature, puisque la mosaïque du pavement représente le paradis terrestre. Il n'y manque que le trône, absence symbolique, puisque la Bavière a dû transférer sa puissance souveraine à la Prusse de Bismarck. Les Bavarois, fascinés par le dynamisme prussien, la Realpolitik et les succès des Hohenzollern, méprisaient un roi qui imitait ses ancêtres électeurs du Saint-Empire romain, vénéraient Saint Louis et Louis XIV. Il lui reprochait ses prodigalités architecturales. Il ne pouvait deviner que 100 ans plus tard, à peine, ces châteaux rapporteraient des millions à l'État et seraient une des principales sources de revenus de la Bavière. Mais au prix de quelle profanation ! Là où le roi Louis vivait seul, servi par quelques domestiques masqués, car il ne voulait voir personne et un homme portant un masque n'existait pas, s'agglutinent des troupeaux de touristes qui pestent contre l'étroitesse des escaliers et ne comprennent rien à ce qu'ils voient. Louis, ayant toujours vécu dans un monde de rêves et de légendes, est devenu lui-même une légende. Il s'est d'abord incarné dans Lohengrin, le prédestiné, qui ne peut sauver le monde que si on a en lui une foi absolue. Elsa doute et cède à la curiosité. Elle demande qui il est. Il doit répondre, mais il s'en va, escorté par le signe magique. Elsa, c'est la Bavière, qui a cédé à la méchante Ortrude, la petite bourgeoisie méprisante, basse et avare. Ensuite, Louis a vu son double dans Parsifal, un autre prédestiné qui libère Montsalvat et les chevaliers du Graal des maléfices qui pesaient sur eux. Mais il arrive trop tard. Après 1870, il ne peut sauver la Bavière, et ne pouvant agir pour elle, il s'applique à incarner l'agonie de la Bavière déclinante et humiliée. C'est seulement en 1892 que le prince régnant Luitpold mit la dernière main à tous les bâtiments, Kemenateu et Tour Carrée, qui composent Neuschwanstein. Ces trois châteaux furent édifiés sur sa liste civile et sa cassette personnelle. Les emprunts, faits à l'État, ont été remboursés par les Wittelbach. C'est donc une prodigieuse affaire immobilière qu'il a offerte à la Bavière. Verlaine a donné le ton, les autres écrivains ont suivi. Barrès, dans L'ennemi des lois, D'Annunzio, La Vierge au rocher, Guy de Pourtalès, Bainville, Frégnaud, dans Le livre de raison d'un roi fou, Jean Descartes, Les châteaux fous de Louis II, avec de superbes photographies, ont complété le portrait. Le dernier en date des fanatiques fascinés est Philippe de Guillou dans Le Songe royal, édité chez Gallimard en 1996. Louis II avait accédé au trône à l'âge de 18 ans et les Bavarois avaient accueilli avec liesse ce jeune roi remarquable. Par sa haute taille, il mesurait 1m90 et sa beauté angélique. Marie-France Guimard-Roche vous retrouvera dans une autre émission de Bienvenue chez le Roi, enregistrée par Pierre Écart et réalisée par Roland Richard dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel.